On a toujours tort d'avoir raison trop tôt, Galilée, on savait quelque chose.
Exactement, Fabrice, vous êtes au courant du sujet aujourd'hui. Ouais. Effectivement, un des plus grands
comme
procès.
Comme tous les jours.
Un des plus grands procès de l'histoire opposant la science à la religion, le procès de Galilée.
L'idée que la Terre tourne autour du Soleil est idiote, absurde et philosophiquement hérétique, car elle contredit la doctrine de la Sainte Écriture. Le cardinal Bellarmine à Galilée en 1616. Ans d'histoire. Le 12 avril 1633, dans une pièce du couvent Santa Maria de Rome, un vieil homme en chemise de pénitence s'avance devant ses juges. Accusé d'être un hérétique parce qu'il affirme que la Terre tourne autour du Soleil, il sait ce qu'il risque. Quelques années plus tôt, parce qu'il disait la même chose, les livres de Copernic avaient été mis à l'index par le tribunal de l'Inquisition et le dominicain Giordano Bruno avait été brûlé vif. Tous les trois, Copernic, Giordano Bruno puis Galilée, remettaient en cause une théorie bien établie depuis 2000 ans. Depuis qu'Aristote et Ptolémée avaient affirmé que le Soleil tournait autour de la Terre et que celle-ci était immobile au centre de l'univers. Et c'est parce qu'il avait démontré et écrit très exactement le contraire que Galilée comparaissait devant ses juges en avril 1633.
Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galileo Galilei, citoyen de Florence, nous disons, statuons et déclarons que, toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le Soleil serait le centre du monde et que la Terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion contraire à la Sainte Écriture. En conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines imposées et promulguées par les sacrés canons de toutes les lois, réprimant de tels délits.
Frédéric Serrore, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, philosophe et auteur d'un roman, Les Hommes de Galilée, où l'on apprend beaucoup de choses, pas forcément très connues sur ce procès de Galilée, nous vous en parlerez. En tout cas, Galilée, on vient de l'entendre accusé d'hérésie pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui est depuis 300 ans, bien sûr, une évidence, mais à l'époque, c'était un scandale. On oublie que pendant 20 siècles, Frédéric Serrore, on s'est fait une idée totalement fausse de l'univers qui nous entourait. C'était ce qu'on appelait le géocentrisme.
Oui, en effet, le géocentrisme était défendu par un mathématicien grec qui s'appelle Ptolémée et qui avait imposé l'idée, en liaison, bien sûr, avec les besoins de l'époque qui étaient d'établir des calendriers, que l'univers était immobile et immutable. Donc ces deux idées, en fait, ces deux éléments ont été repris par l'Église et ont été institués en dogme. Ce qui fait que lorsque, au XVIe siècle, en 1543, lorsque Copernic, après moult hésitations, a présenté son ouvrage sur la révolution des orbes célestes, il a d'abord longuement réfléchi et il a pratiquement écrit son livre en forme de testament.
Alors l'idée était, ça c'est le géocentrisme, qu'au fond, tout tournait autour de la Terre, centre du monde. C'est d'ailleurs pour ça, Frédéric Serrore, évidemment, que l'Église s'est ralliée à cette idée d'origine païenne, puisqu'Aristote et Ptolémée vivaient bien avant le Christ, mais parce qu'au fond ça convient assez bien à son idée de l'univers. La Terre et les hommes ont été conçus par Dieu, donc il était normal que tout cela se trouve au centre de l'univers.
Oui, l'homme et la Terre sont au centre de l'univers, ils correspondent donc au sommet de la création. Mmh. Donc on ne comprendrait pas que évidemment cette création se trouve dans un petit coin périphérique de la conception globale.
Et tout tourne évidemment autour de la Terre. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit le soleil se lève ou le soleil se couche, d'une certaine manière, c'est la conception antique de l'univers. Alors, est-ce que c'est uniquement parce que ils ont d'autres idées, vous parliez de Copernic et plus tard de Galilée, on y reviendra, que l'Église se méfie au fond de ces idées nouvelles? Vous évoquez quelque chose en ce qui concerne Galilée, Frédéric Serrore, c'est qu'il y avait aussi une autre critique, c'est l'idée que Galilée se faisait de l'atome, atomes.
Oui, Galilée a fait des recherches très tôt sur la lumière et sur la chaleur, et il distinguait une structure corpusculaire de la lumière, ce qui était quand même très audacieux à son époque, et pour la chaleur, de la même façon, il distinguait des atomes de feu qui se déplaçaient dans l'espace et qui expliquaient le toucher.
Mais en quoi ça peut gêner l'Église ?
Eh bien, si on pense à l'Eucharistie, si l'on pense à la communion, on a au contraire là une matière qui change complètement, dans lequel il n'y a pas d'élément commun. C'est-à-dire que les atomes, si la matière est composée d'atomes, s'opposent clairement à cette transformation qui est indiquée, enfin qui est confirmée dans la communion.
Oui. En tout cas, l'Église n'aime pas trop que l'on badine avec des idées très préconçues qu'on en a depuis des siècles, et de l'univers et de l'atome, et elle l'a prouvé déjà, vous l'avez rappelé, bien avant Galilée, avec le Polonais Copernic, et puis surtout un Dominicain italien qui sera brûlé vif à Rome 33 ans avant le procès de Galilée.
8 febbraio 1600, diciamo, pronunciamo, decretiamo, sentenziamo te, Giordano Bruno.
En ce jour, 8 février 1600, nous te jugeons, Giordano Bruno, hérétique, et donc tombant sous le coup de la censure ecclésiastique. Nous condamnons tous tes écrits comme hérétiques et faux, ordonnons qu'ils soient publiquement brûlés sur la place Saint-Pierre et qu'ils soient inscrits à l'index des livres interdits. Nous te livrons au gouverneur de Rome.
Et c'était la mort affreuse de Giordano Bruno, brûlé vif à Rome en 1600. Je crois qu'on lui avait mis un bâillon métallique. C'était absolument abominable. On oublie souvent que, bien avant Galilée, il y avait déjà donc des hommes qui contestaient l'idée qu'on se faisait de l'univers. Copernic, vous le rappelez, le premier à avoir imaginé l'héliocentrisme, au fond, le fait que les planètes tournent autour du soleil. Giordano Bruno aussi.
Oui, d'abord Copernic. Alors Copernic le fait sans aucune observation, il le fait en mathématicien. Donc en faisant des calculs, il met en évidence que la Terre ne se trouve pas au centre, mais qu'elle est en rotation autour de l'astre solaire, ainsi que les autres planètes. Dans l'entretemps, entre Ptolémée et Copernic, il y a eu un système qui était un petit peu bâtard, qui était le système de Tycho Brahe, qui lui faisait tourner certaines planètes autour du Soleil, qui lui-même tournait autour de la Terre.
Vous dites, pour ce qui concerne Copernic, que c'est une théorie, et j'ajoute qu'il se garde bien de la rendre publique, puisque je crois que ses livres, son œuvre, n'a été publié que juste avant sa mort. Hein. On ne pouvait donc pas l'attaquer.
Juste après sa mort, c'est donc son assistant qui a fait la préface pour atténuer l'aspect révolutionnaire de ses idées. Donc il a fait une préface. D'abord, le livre était bien sûr dédié au pape de l'époque, Paul III. Et ensuite, son assistant avait présenté son œuvre comme étant une simple hypothèse mathématique.
Alors, ce sont des hypothèses, hein, vous le dites, Frédéric Serrore, au fond, des hypothèses que rien ne pouvait être, enfin, qui n'étaient pas vérifiées. Alors, il va y avoir quelque chose de très important pour que Galilée fasse ce qu'il a fait. C'est une invention qui n'est pas de Galilée, contrairement à ce qu'on croit. C'est la lunette astronomique, Frédéric Serrore.
Oui, donc cette lunette a été inventée dans les Flandres, en Hollande, on l'attribue à un dénommé Metius. Elle a été inventée quelques années avant que Galilée s'en serve. Lui en apprend l'existence grâce à un Français en 1609. À partir de là, il a plusieurs idées qui ne sont pas uniquement astronomiques. Il pense que la lunette va servir dans l'art de la guerre, tout simplement pour observer les bateaux qui se rapprochent, pour préparer un combat et donner donc au doge de Venise des capacités de défense plus importantes.
Et puis bientôt, il va braquer cette lunette vers le ciel pour y découvrir des choses que personne encore n'avait jamais vues.
C'est un satellite de Jupiter, Éminence.
Jupiter est un satellite ?
Oui.
Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merveille !
En réalité, Éminence, il y a non pas deux, mais quatre satellites autour de Jupiter.
Quatre satellites autour de Jupiter.
Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le Collège romain vous aidera, je vous l'assure.
Oui, c'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a mis la science en dessus-dessous.
N'aurais-je pas d'opposants ?
Mais qui donc ?
Les partisans des idées anciennes. Il y en a même dans l'Église.
L'Église est moins conservatrice qu'on ne le dit. Allez-y hardiment. L'Église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'Église et en nous.
Mostra Vincel est apparu dans le ciel, un chant de la fin du XVIe siècle d'Orazio Vecchi, à l'époque où Galilée n'avait pas encore fait ses découvertes justement dans le ciel. C'est elles qui vont tout remettre en cause. Alors, il y en a beaucoup, il en fait beaucoup. Je crois que la première importante, grâce à sa lunette, ça a été le fait qu'il a découvert du relief sur la Lune, Frédéric Serrore.
Oui, et c'était un aspect tout à fait nouveau dans la mesure où on pensait que la Lune était lisse comme toutes les autres planètes. Donc des reliefs montagneux sur la Lune, ça voulait dire qu'elle pouvait être assimilée à la Terre et que la Terre n'était pas unique dans l'univers. Et puis, il y a la découverte des satellites de Jupiter.
Alors ça, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Très important, je crois que c'est la plus importante.
C'est la plus importante, oui. Il les observe une première fois, il pense que c'est des planètes, et puis il les observe quelques jours après, il voit qu'ils ont changé de place, et donc il déduit qu'il s'agit d'astres en rotation autour de Jupiter.
Et pas autour de la Terre, c'est ça, au fond, qui est important dans cette découverte. Il y a aussi les phases de Vénus qui ne peuvent s'expliquer que parce que Vénus tourne autour du Soleil. Alors pourquoi pas la Terre. En tout cas, Vénus ne tourne pas autour de la Terre.
Naturellement, Vénus est cachée par le Soleil dans sa révolution. Donc l'ensemble de ces éléments amène d'abord à une remise en question par les savants de la lunette astronomique. On pense que la lunette astronomique est un instrument magique, c'est-à-dire qu'il y a un trucage et on essaie d'examiner sous tous les angles cette lunette pour essayer de comprendre comment ces éléments ont pu apparaître. Et puis il y a quand même une autorité très importante, un scientifique très important qui s'appelle Clavius, membre du Collège romain, qui est un jésuite et qui se laisse convaincre par les explications de Galilée. Donc, oui. C'est un premier signe de reconnaissance.
Parce qu'effectivement, dans le dialogue qu'on a entendu, en fait, il s'agit de Galilée, joué magnifiquement par Claude Riche, qui parle à son ami, c'est Jean-Pierre Marielle, qui joue le rôle du futur pape Urbain VIII. Il n'est pas encore pape, il s'appelle encore le cardinal Barberini, qui n'est pas choqué, on l'a entendu, c'est merveilleux, il faut que vous nous montriez, vous fassiez une nouvelle carte du ciel. Au fond, l'Église ne semble pas s'inquiéter beaucoup de ces découvertes, elle semble même les encourager au début.
Tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler que Copernic n'a pas été interdit par le Concile de Trente, qui a été contemporain. Ensuite,
ces livres ont été mis à l'index, hein, je crois.
Plus tard,
en 1616.
Ils ont été mis à l'index plus tard. Mais le nouveau calendrier qui a vu le jour en 1580 s'est inspiré des calculs de Copernic.
Oui, oui.
Donc, on voit bien que Copernic n'était pas du tout interdit. C'était une hypothèse qui avait l'appui d'un certain nombre de savants. 1610, donc, arrivent toutes ces découvertes de Galilée. Le Collège romain, ainsi que Maffeo Barberini, le futur Urbain VIII.
L'ami de Galilée, qui deviendra l'ami de Galilée.
Qui deviendra l'ami de Galilée.
Le protecteur, oui.
Soutiendra donc cet effort de recherche de Galilée, et même il sera largement consacré dans diverses discussions qui ont lieu à Rome à l'époque.
Mais il est très populaire, hein, notamment auprès du grand-duc de Toscane, à Florence, par Cosme II. D'ailleurs, il va donner le nom du grand-duc de Florence, je crois, aux satellites de Jupiter qu'on appelait les astres médiciens, Cosme de Médicis, les astres médiciens. Donc c'est quelqu'un qui est un peu intouchable, très populaire. Alors il y a quand même quelqu'un qui s'inquiète, c'est un grand théologien de l'époque, c'est le cardinal Bellarmine. Hein. Lui, en revanche, il est très soucieux de maintenir l'identité de l'Église et il se dit, où vont nous mener toutes ces découvertes?
Bellarmine était l'inquisiteur qui a condamné Giordano Bruno. Il ne faut pas l'oublier, donc il est effectivement soucieux du dogme et il reçoit un certain nombre de dénonciations de Galilée, car les dénonciations arrivent très très vite. Dès 1611, un an après les grandes découvertes, il y a différents moines qui envoient des dénonciations disant que Galilée a tenu des propos hérétiques, qu'il a considérer Dieu comme un accident. Il y a des dénonciations écrites qui parviennent à ce moment-là au Saint-Office à Rome.
Alors cela dit, donc il est mis à l'index, pas seulement pour ses idées, je crois. Il y a aussi, on commence à s'inquiéter encore une fois de ses idées sur les atomes. Mais pendant un bout de temps, il va faire d'autres travaux. Il détourne sa lunette du ciel, si je puis dire. Et il s'intéresse. On oublie toujours qu'il a pas. Il s'est pas seulement occupé du ciel. Par exemple, c'est lui qui est à l'origine de la fameuse théorie de la chute des corps, hein, qu'il avait expérimenté, je crois que c'est sur la tour de Pise, Frédéric Serrore.
Oui, tout à fait, il avait expérimenté en laboratoire avec des billes qu'il avait mesurées dont le temps de descente avait été mesuré sur un plan incliné, et il avait donc mis au point la loi de la chute des corps.
Consistant à dire que quel que soit le poids d'un corps, les deux, s'ils sont lâchés en même temps, tombent en même temps sur le sol.
C'est l'expérience de la tour de Pise,
oui.
Voilà.
Et sur la tombe aussi.
Il s'est intéressé donc à une pierre qui s'appelle le sulfate de barium, qui avait la caractéristique d'être lumineuse. Et cette caractéristique lui a permis de penser que la lumière s'attachait à des corps particuliers. Cette idée, il la développe dans différents discours et ça lui permet, avec la question astronomique, tout ça forme un ensemble, de développer aussi une nouvelle relation entre la science et la foi.
Alors justement, en 1622, le pape Paul V, qui était lui dans ce domaine très méfiant vis-à-vis de toutes les nouveautés, il meurt. Et puis c'est justement l'ami de Galilée, le cardinal Barberini, qui devient pape sous le nom d'Urbain VIII, et puis apparemment beaucoup plus ouvert aux idées nouvelles que son prédécesseur.
La théorie de Copernic peut être exposée à condition de ne pas affirmer qu'elle est vraie. Il faut libérer le savoir.
Oh oui, Saint-Père, libérer le savoir. C'est ce que j'attendais de vous.
Galilée, il faut laisser les savants développer librement leur science et leur construction intellectuelle. Mais de leur côté, il faut qu'ils comprennent que leur réalité n'est pas forcément la vérité.
Vous voulez dire que la science ne serait pas la réalité?
Pas toujours. Mais lorsqu'il y a contradiction entre la science et les Écritures, c'est sans doute que la science est dans l'erreur. Séparez, je vous prie, la science et la théologie. Si au cours de vos recherches, vous aviez l'impression d'avoir la preuve claire, irréfutable, que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, il vous faudra éviter de le dire, de le publier.
Autrement dit, vous avez peut-être raison, Galilée, mais alors surtout, ne le dites pas, ne l'écrivez pas. C'est très jésuite, hein, comme raisonnement. Je ne sais pas si le pape Urbain VIII était jésuite, mais c'était ça.
Oui, c'était prendre cette idée de Copernic, qui avait quand même des chances d'être vérifiée un jour, comme une hypothèse, et uniquement une hypothèse. D'ailleurs, dans l'entrevue entre Bellarmine et Galilée en 1616, on lui rappelle donc que le système de Copernic est condamné, mais qu'il peut continuer à travailler sur cette hypothèse scientifique.
Mais il faut le rappeler, Galilée ne remet pas en cause le dogme catholique. Il est convaincu, il est très fervent, c'est un fervent catholique, il est convaincu qu'il va pouvoir réconcilier la science et la religion, même si elles sont en contradiction.
Exactement, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, il conçoit dans l'univers, il y a deux livres. Il y a un livre qui s'appelle la Bible, et puis il y a le livre de l'univers. Les deux sont la création de Dieu. Et ces deux créations ne doivent pas s'opposer.
Si elles disent des choses contraires, justement.
Alors,
est-ce que dans la Bible on dit le soleil ne bouge pas et la terre tourne, la terre ne bouge pas et le soleil tourne autour?
On le dit en fait indirectement dans certains passages, notamment le passage qui concerne Josué, la bataille contre les Amalécites, où on dit que Dieu est intervenu pour arrêter le soleil. Donc s'il arrête le soleil, c'est que le soleil est en mouvement. On a donc cet élément qui lui est régulièrement opposé.
Alors, il, contrairement à ce que recommandait son ami le pape, le pape Urbain VIII, eh bien, il va écrire un livre, se croyant protégé justement par Barberini, par le pape. Il va écrire un livre, alors ça, c'est ça qui va mettre le feu aux poudres, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Et alors, un livre au scandale, non seulement qui confirme les théories de Copernic, mais en plus, un livre qui, alors c'est ça qu'on lui reproche, qui n'est pas écrit en latin comme tous les livres savants de l'époque, mais en italien, c'est-à-dire accessible à tout le monde.
Oui, ça c'est une grande faute de Galilée, de s'être adressé au peuple.
Car, du point de vue de l'Église, c'est une faute.
Bien sûr, Et il avait précédemment développé dans son premier livre du pontificat d'Urbain VIII, dans L'Essayeur, il avait développé toute sa conception de la relation entre la science et la foi, disant qu'on ne pouvait pas prendre la Bible à la lettre, qu'il fallait faire une interprétation du texte pour comprendre, mais qu'en aucun cas il fallait se baser sur la lettre du texte. Dans son livre sur les deux grands dialogues du monde, donc qui va faire l'objet du procès, il reprend une idée qu'il a beaucoup développée dans L'Essayeur, qui est l'idée que la matière est composée de corpuscules. Il y a donc sur lui
il n'y a pas que le problème des astres qui compte. Vous y revenez, mais c'est vrai, Frédéric Serrault, on l'oublie toujours.
J'y reviens et j'essaie justement dans mon ouvrage de développer tous ces éléments, parce que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. En réalité, on voit que sur la question des astres, il y avait quand même unanimité, mais il y avait quand même une tendance qui pensait à tolérer cette idée. Par contre, sur la question corpusculaire, il y avait une dénonciation ferme. Cette dénonciation existe dans un document qui a été retrouvé il y a une vingtaine d'années. Ce document indique que cette conception s'oppose au dogme de l'Eucharistie. Donc à la transmutation de la matière, dans laquelle on ne retrouve plus aucun élément de la matière précédente.
Et voilà pourquoi on attaque Galilée. Il passe en procès devant l'Inquisition. Ça a duré plusieurs mois, 3 mois, je crois.
Oui, ça a duré 3 mois. Et puis il y a eu des longs préparatifs, parce que on n'est pas tout à fait fixé au début sur les chefs d'accusation. Il est d'abord, on l'accuse de s'être moqué du pape. On voit qu'il y a un dessin sur la page de garde du livre qui représente 3 dauphins, et on pense que c'est une caricature du symbole du pape, qui sont les 3 abeilles. Donc on l'accuse de toutes sortes de choses, de n'avoir pas soumis son livre à l'imprimature de Rome, ce qui n'est pas exact. Il a eu l'imprimature de Rome et l'imprimature de Florence. Et il y a une commission, c'est une chose tout à fait différentes, nouvelles, qui préparent en fait le procès de l'Inquisition.
Alors un procès au cours duquel il va être condamné, accusé d'hérésie, et on lui laisse une chance, celle de d'éviter la peine qu'avait subi par exemple Giordano Bruno, à condition qu'il se rétracte, ce qu'il va faire le 22 juin 1633, à l'âge de 70 ans et revêtu d'une chemise de pénitent.
Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei, comparaissant en personne devant ce tribunal et agenouillé devant vous, très éminents et révérends seigneurs, cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant contre la dépravation hérétique dans tout le monde chrétien, voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil, j'abjure, je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non feinte ses erreurs. Je le jure avec l'aide de Dieu et sur ses saints évangiles que je touche de mes mains. Moi, Galileo Galilei, j'ai abjuré comme ci-dessus à Rome dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633, et signé de ma propre main.
Et c'est exactement ces termes que Galilée, joué magnifiquement par Claude Rich, encore une fois abjuré, au cours d'une cérémonie humiliante, on dirait aujourd'hui stalinienne, hein, comme les autocritiques à l'époque de Staline. On n'a pas entendu ce mot, hein, et pourtant elle tourne, parce qu'on n'est pas sûr qu'il l'ait prononcé, donc le film est très fidèle à la réalité, en tout cas ce qu'on sait de la réalité. Et puis alors, il mourra 9 ans, sans dire un mot, sans plus rien écrire pratiquement, 9 ans plus tard, en 38, et il aura fallu quand même attendre plus de 200 ans, je crois, pour que l'Église, en 1822, reconnaisse que, effectivement, la Terre tourne autour du Soleil, et encore plus, 350 ans pour que Jean-Paul II réhabilite Galilée. C'est quand même incroyable de penser à ça. Le oui, temps qu'il a fallu pour qu'elle admette...
Il a été persécuté dans les 9 dernières années de sa vie. Il était assigné à résidence, interdiction de sortir. Même son enterrement a été difficile. Mmh. Il n'avait pas de place dans l'église. Ce sont ses disciples qui ont réussi à déplacer le corps. Donc, une sorte d'acharnement quand même.
Mais longtemps, alors que tout le monde admettait que, et même d'ailleurs sûrement la plupart des membres du clergé, mais pas officiellement, qu'il avait finalement raison, ce temps qu'il a fallu, un, pour reconnaître ses idées, et celles de Copernic, du même coup, et deux, pour le réhabiliter, c'est Jean-Paul II qui l'a fait, encore une fois, en 1992.
Tout à fait. Donc, et il faut réfléchir à l'objet de cette mise en cause de Galilée, et cet objet, c'est Urbain VIII, finalement, qui le résume très bien. Il dit, il a touché aux questions les plus graves et les plus pernicieuses qui puissent être soulevées actuellement.
C'est aussi, il faut le rappeler, c'est pas le cas uniquement du christianisme, de l'Église catholique. Il y a d'autres religions qui font pareil. Il y a aussi certaines institutions. Je pense évidemment à la justice. Je pense aussi à certaines idéologies qui n'aiment pas du tout politique, qui n'ont rien avec la religion, qui n'aiment pas du tout que les réalités aillent à l'encontre de leurs dogmes. Merci en tout cas, Frédéric Serrore, de nous avoir appelé ce procès de Galilée. Je rappelle que vous êtes l'auteur du roman « Les hommes de Galilée » aux éditions Le Pommier. À lire également un livre dans lequel vraiment vous apportez beaucoup d'éléments nouveaux. À lire également « Galilée, le messager des étoiles » de Jean-Pierre Maury aux éditions Découverte Gallimard et « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », l'œuvre justement qui avait fait condamner Galilée et publiée aux éditions Point Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films Giordano Bruno de Giuliano Montaldo, édité par Surf Video, ainsi que de l'excellent téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu de Jean-Daniel Verheugue avec Claude Rich dans le rôle de Galilée et Jean-Pierre Mariel dans celui d'Urbain VIII. C'est un DVD aux éditions Zone 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Anstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.